Bonjour à tous, la grande table avance avec l'été sur les chemins de la création. À 13h50, devant le château de la Roche-Guyon, François Sureau nous fera redécouvrir l'homme qui résista de l'intérieur au régime nazi, Ernst Jünger. Mais avant cela, nous allons parler de soignants, de maternité et de rock. À l'occasion de la sortie du dernier film de Marion Lenne, Voir le jour avec Sandrine Bonner, adapté du roman de Julie Bonny, Chambre 2. Nous voilà dans les sabots d'une auxiliaire de puériculture, Jeanne, pris dans le rythme effréné des conditions qu'offre l'hôpital aux mères qui accouchent et à celles qui les accompagnent. Une histoire de femme ballottée entre les contraintes, les cris des supérieurs, les épreuves qu'engendrent certaines naissances. Derrière la blouse de Jeanne, qui fait d'elle une invisible, des tatouages, les traces de son passé, une vie de roqueuse qui jaillit par fragments au moment où son enfant quitte le nid. C'est de cette héroïne soignante dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de la réalisatrice Marion Lenne et de la romancière Julie Bonny. Bienvenue à tous sur France Culture.
Grande table d'été, Maëlys Bessery.
Commence. Bonjour à toutes les deux. Sur l'ouverture instrumentale de Voir le jour, Marion Lenne, quelques mots de cette musique peut-être ?
C'est la musique de Béatrice Thirier, donc c'est ma deuxième collaboration avec elle. Et j'aime beaucoup son travail, je trouve qu'elle a apporté une profondeur. Enfin, j'aime beaucoup parler avec elle et construire en fait en amont. Là, je suis sur un autre projet et on travaille déjà ensemble sur la musique. Construire justement, écrire aussi. Comme là, on va parler d'adaptation.
Mais l'identité sonore du film, hein, c'est, donc voilà. Elle a composé plusieurs musiques originales pour ce film-là, Marion Lenne. Et vous, Julie Bonny, vous avez aussi composé une chanson.
Oui, j'ai composé un morceau rock'n'roll du passé de Jeanne.
Alors, composé, interprété. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça fait partie du travail aussi d'identité du film et de mémoire, de cette mémoire qui revient par fragments. Peut-être on va parler de cette double composition du film, de cette mécanique du film qui est aussi la mécanique du livre Chambre 2, que de travailler sur un personnage à l'écran et puis une autre vie en creux. Marion Lenne, comment est-ce que vous avez eu envie de travailler sur ce double mouvement-là?
Ben c'était, oui, c'est exactement ça, un double mouvement, et j'aimais bien que ça arrive par information, mais de façon assez subtile, et qu'on apprenne les choses comme ça, sans que ce soit pesant. Et donc c'était un peu l'idée de comment travailler ces flashbacks, sans faire des flashbacks classiques, mais l'idée, j'aimais bien chercher comment est-ce qu'on se souvient de son passé, comment on le travaille, qu'on soit présent dans son passé, c'est l'image qu'on a de soi. Enfin, on a un peu oublié l'image de la femme de 30 ans. Enfin, je partais du principe que Jeanne avait un peu oublié Norma, ou elle se souvenait de Norma, donc qui était son deuxième, son passé.
Sa deuxième identité, puisqu'elle a deux prénoms. Elle s'appelle Jeanne en tant qu'auxiliaire de puériculture, et elle s'appelle Norma dans sa vie passée de roqueuse. Et c'est ce travail qui fonctionne un peu comme un glissement d'un point de vue cinématographique. Je ne sais pas comment vous le définiriez, vous.
Oui, c'est ça. C'est Norma Jean, c'était déjà en plus le clin d'œil à Marilyn, qui est dans le livre. Et donc c'est comme ça aussi que j'aime travailler quand je travaille je travaille toujours sur des adaptations. Et c'est prendre un élément. Donc dans le livre de Julie, c'est la fille. Elle a appelé sa fille Norma, et elle s'appelle Béatrice. Donc, et moi, j'avais envie de partir. Elle l'appelle Norma parce qu'elle adore, Marilyn. Il y a une très jolie référence à Marilyn dans le livre. Et voilà. Et là, ça fait partie des petites pistes comme ça qui me plaisent, et je tire les fils à partir de là. Donc, quand vous parliez de glissement, c'est ça. Je pars d'une idée, je cherche comment l'insérer et la mettre en forme dans un travail, dans un canevas, quoi, en fait.
Alors, vous tirez les fils, j'ai envie de dire les tentacules, hein, parce que c'est quand même le motif de la méduse qui revient aussi, comme une sorte de motif amniotique, comme ça, qui revient de la méduse. On part d'un tatouage et on arrive dans l'océan.
Oui, amniotique, complètement. C'était aussi le rapport à l'eau, le rapport à la mer. Donc, c'est un film sur la maternité, sur la mer, et je voulais j'aime bien travailler à chaque fois en écho. C'est toujours un écho, et l'écho de la mer MER, la Méditerranée aussi, qui est très forte, très importante dans la vie de sa fille. Et pourquoi elle est si importante? Parce que sa fille est passionnée d'apnée. Et donc, ne vit que pour ça. Et sur les murs de ça, elle est sur les murs du salon, elle a tagué, apprendre à respirer pour ne plus respirer. Et pour moi, c'est un tag donc très concret, un mantra de son professeur, mais qui forcément est le reflet de la vie de Jeanne.
Alors, Julie Bonny, on parle d'eau, de motifs amniotiques. C'est aussi parce que ce livre, c'est un livre très corporel. Pour une raison, c'est que aussi vous avez vécu cette expérience-là d'année en maternité. Et en même temps, dans cette écriture, il y a une réécriture aussi, un personnage d'alter ego qui a été retrouvé. Donc, ce n'est pas totalement un récit non plus à la première personne, mais il y a quand même cette expérience qui a été la vôtre du corps dans le corps d'un soignant.
Oui, dans le corps d'un soignant, tout à fait. J'ai été dans le corps d'un soignant en vrai pendant 10 ans en maternité. J'ai jamais considéré que Béatrice, donc le personnage principal de mon livre, c'était moi. J'ai vraiment pensé écrire une fiction et même en le relisant, là, en venant, etc., je me dis non, ça, ce n'est pas moi. C'est peut-être éventuellement une micro-partie de moi, comme un éclairage, une loupe sur une petite partie de qui je peux être. Mais non, j'ai vraiment créé ce personnage et je me souviens que quand j'avais... ce que j'avais en tête quand je faisais parler Béatrice, c'est que je voulais qu'elle soit, elle, comme si elle était le nouveau-né. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est tout le temps dans la sensation, essentiellement dans la sensation avec la peau, dans les odeurs, dans les couleurs, dans tout ce qui passe par le corps. Parce que ce qui est vraiment fascinant, troublant, merveilleux quand on passe beaucoup de temps avec des nouveau-nés, mais minuscules, moi j'avais dans les mains des nouveau-nés de à peine 2 heures. Voire moins, c'est leur appréhension du monde. Ils sont vraiment capables de réagir à peu près tous les stimuli qu'on leur propose et de façon différente selon les bébés. Et ils n'ont pas encore, je pense, il me semble, vraiment de quoi que ce soit de raisonnable pour le faire. Donc ils réagissent avec leur corps, avec ce qu'ils peuvent, avec des façons de bouger qu'ils connaissent pas. Et voilà, je voyais beaucoup Béatrice comme ça. Donc oui, dans le livre, il y a ce côté évidemment amniotique, maternel, d'eau, parce qu'on est quasiment que dans la sensation.
Et dans la peau aussi, hein, la peau qui est très importante. C'est le premier plan du film, hein, ouais. Ce plan sur cette peau qu'on n'identifie pas tout de suite et qui en réalité est un ventre. Il y a cette idée que finalement tout le monde est un peu bébé dans le film, Marion Laine.
Oui, dans le sens de tout le monde va naître en fait. J'avais envie de partir de là, de renaissance, de voir le jour justement.
Et quelque chose qui est très beau dans le personnage de Jeanne, dans le personnage du film que j'aime beaucoup, c'est ce, elle est pendant une grande partie du film dans un vrai flottement. On sait pas trop où elle va se poser, comment, ce qui va se passer. Il y a un vrai suspense qui marche vraiment bien, je trouve, dans le film pour ça.
Elle le dit dans la chanson après, dans la chanson que t'as écrite justement, ouais. C'est l'idée de pas savoir où aller, de se laisser porter. Ouais. Donc pour moi, c'était ça aussi la figure de la méduse, de l'animal qui se laisse porter comme ça.
Et on a l'impression qu'elle a toute faim, elle pose enfin ses pieds sur terre et qu'elle a compris. Où elle était, quoi.
Alors ça commence dans la nuit, hein, la première scène se passe dans la nuit, on finit avec le jour, on suit ce cheminement de chacun des personnages. Il y a quand même cette double vie et ce passé qui réapparaît, qui était présent dans la dramaturgie du livre, du roman Chambre 2, Julie Bonny. Peut-être pouvez-vous nous raconter ce que vous avez eu envie justement de faire sentir comme contraste de vie, c'est-à-dire c'est comme si le fait de chausser ces sabots-là d'auxiliaire de puériculture était un costume qui avait remplacé le costume de scène.
Qui gratte.
Qui gratte, absolument.
Alors que son costume de scène, c'était juste sa peau, justement, puisque Béatrice, dans le livre, elle était, dans son passé, assez fantasmée, je pense, dans le livre, danseuse nue. Donc, elle n'avait pas de costume. Elle était justement, sa peau la protégeait parfaitement.
Costume d'Adam.
Voilà, tout à fait. Ou d'Ève. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle est protégée par sa blouse, qui est censée effectivement protéger les personnes.
Rendre invisible en plus.
Rendre invisible, protéger de la personne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enfile une blouse, on peut balancer le discours officiel de l'hôpital. On peut donner des conseils en tant que personne hospitalière et puis oublier qui on est, oublier qu'on est hyper ému ou bouleversé par ce qui se passe ou ce qu'on voit dans les chambres, etc. La blouse est censée vous protéger.
On est l'institution.
Voilà. Alors, moi, ce que j'ai vécu, c'était quasiment le contraire. La blouse me grattait beaucoup, justement. Et voilà, ce que je voulais raconter aussi, c'est que c'est toujours le rapport à la peau, à la nudité. Béatrice était bien plus protégée par l'art et par sa peau qu'une fois qu'elle est censée être protégée par l'institution, parce qu'elle rentre pas dans les cases, elle y arrive pas. Il y a un truc qui est pas humain là-dedans. Et c'est mon personnage, mais c'est quelque chose que je serais assez prête à défendre quand même, que à l'endroit où il devrait y avoir de l'humain absolument tout le temps, ça devrait être la priorité. À cause de je ne sais quoi, mais d'une énorme machine qui broie essentiellement tous les gens qui y rentrent, on oublie ce qui a d'hyper important, c'est-à-dire que c'est des humains face à d'autres humains.
Marie-Hélène, c'est l'une des choses qui apparaît très fortement dans le film, la violence institutionnelle qui apparaît à plusieurs égards. La première chose, c'est que c'est quand même un monde de femmes qui accouchent, de femmes qui les aident à accoucher. Et le seul homme qui apparaisse vraiment, c'est un médecin autoritaire, désagréable, peu respectueux.
Oui,
et elle est tout en bas de la hiérarchie, les blouses.
Oui, c'est surtout un monde de femmes. Donc, effectivement, on fait la remarque que je n'ai pas mis d'hommes sages-femmes. Il y en a.
Il y en a pas beaucoup.
Donc, l'idée, c'était un film à part entière, ça, de traiter ce sujet. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de... Oui, voilà, j'avais envie de faire des portraits de femmes, des portraits de femmes au pluriel, et j'avais envie d'avoir une tribu d'actrices. Et donc, là, c'était un désir de la réalisatrice personnelle. Et donc...
Ce qui est hyper réussi dans le film, parce que là, on a des portraits de femmes magnifiques, je trouve.
De tous âges, d'ailleurs, puisqu'on rentre d'ailleurs à travers aussi assez rapidement le regard de la stagiaire. Hein. Peut-être on va écouter cet extrait-là. C'est l'arrivée de Jennifer.
Ah, la 3. J'adore. Tout à l'heure, elle m'a sonné pour que je ramasse la fourchette. Mmh. Elle n'a pas eu de césarienne. Non.
J'y vais.
Merci, j'en peux plus.
Comme ça, je te comprends.
Et jamais on dit merci.
Merci Katia pour le café terminé.
Je vous présente Jennifer, la nouvelle stagiaire qui va faire équipe avec Jeanne.
Bonjour.
Salut.
Jeanne, tu voudras bien m'aider là pour la Suisse parce que...
J'arrive. J'amène une nouvelle stagiaire.
Oui, mais peut-être pas comme ça, non? Faudrait se démaquiller, attacher les cheveux, enlever le vernis, couper les ongles.
C'est pas faute de l'avoir prévenue.
T'as entendu? Après, tu vas voir Katia pour laver les berceaux.
Mais vous faites erreur là, moi je suis pas venue pour laver les berceaux. Et dingue l'autre.
L'autre, elle s'appelle Sylvie, et c'est la chef. Et justement, laver le berceau, c'est...
Le boulot des stagiaires. Bienvenue en matière.
Ce que l'on entend, Marie-Hélène, de manière saisissante, c'est l'univers sonore de l'hôpital. C'est le véritable univers sonore de l'hôpital qu'on entend ou il est reconstitué là ?
Il est reconstitué.
Il est reconstitué.
Oui, oui. Non, on a tourné dans une aile désaffectée d'un hôpital. Et donc, il a fallu refaire tout le montage son. La monteuse son Muriel Moreau, justement, est partie dans des hôpitaux, dans des maternités et a fait vraiment énormément de prises de son.
Ah, donc on a le vrai son quand même des hôpitaux reconstitués.
Voilà. Mais c'est un mélange. Disons que c'est pas le son qu'on voit directement. Mais effectivement, c'est un mélange de, oui, c'est du son. Enfin, c'est plein de choses.
Alors, à travers ces bruits-là et ces couloirs de déambulation, apparaît ce personnage de Jennifer. Comment est-ce que d'abord on s'empare d'un lieu institutionnel assez anonyme comme l'hôpital, cinématographiquement parlant? Comment est-ce que vous avez imaginé ces images? C'est d'abord des déambulations dans les couloirs?
Moi, j'avais par exemple ce plan séquence du début. Enfin, ça commence, le prologue, ça, je l'ai eu au cours du tournage, cette idée de filmer vraiment la peau, parce que je voulais vraiment être proche de la peau, vraiment pour rejoindre le livre de Julie. En revanche, ce premier plan séquence, j'y pensais depuis le début, parce que je voulais vraiment que ce soit comme un super long couloir et le cordon pour arriver jusqu'à Sandrine, et c'est Horatica qui nous emmène vers Sandrine, et voilà, et avec toutes ces femmes qui étaient des vraies femmes enceintes, et ça, j'avais besoin de ça. Ça, j'avais cette image depuis le début de l'écriture.
Alors, avec l'arrivée de Jennifer, la stagiaire, on est là, alors, tout en bas de la hiérarchie. Mmh. Elle est la seule, d'ailleurs, à être encore plus bas dans la hiérarchie que le personnage principal de Jeanne. Et on voit à travers elle les questions naïves posées sur l'hôpital, mais qui sont des questions réelles sur le fonctionnement.
Oui, moi j'aimais beaucoup ce personnage de Candide et à la fois dans lequel on peut s'identifier. quand on connaît pas l'hôpital. Et je trouvais que c'était important de travailler sur cette stagiaire. D'ailleurs, Julie, elle en parle aussi très bien dans le livre, justement.
C'est une scène très violente dans le livre. De la stagiaire se fait hurler dessus.
Mais dans le livre, tout est beaucoup, beaucoup plus violent que dans le film. Moi, j'avais l'impression, j'ai relu le livre ce matin, justement, et j'avais l'impression d'avoir travaillé comme le revers d'une médaille. C'est comme si le livre de Julie, elle ouvre chaque chapitre, elle ouvre une chambre et il y a une maman. Et moi, en fait, les mamans se sont effacées comme ça au fur et à mesure, mais pour être du côté des soignants. Du coup, j'avais comme un hommage un peu aux soignants. Je me disais, mais c'est de façon assez inconsciente dans l'écriture, enfin sur les années d'écriture, les mois d'écriture, ou la façon dont dans le livre s'efface et puis réapparaît comme ça. Il y a un côté palimpseste où d'un seul coup, il y a des images qui reviennent. Et j'adore cette période d'écriture.
On aurait pu penser qu'il y aurait des grandes scènes d'accouchement, des grandes scènes avec des bébés, et il y en a peu. Mm-hmm. Des scènes, en tout cas, il y a des scènes avec les bébés, mais il n'y a pas de grosses scènes d'accouchement. Il y en a une qui passe très rapidement. Ce qui était le centre pour vous, c'était plutôt pas l'aspect merveilleux autour de la naissance, mais plutôt du côté des conditions de travail que ça se passe, Marie-Hélène.
Oui, il y avait
ce parti pris-là de faire fi de ce qu'on connaît tous.
C'est-à-dire que j'avais envie de développer vraiment la maternité, mais dans tous ces âges. Donc, quand on parlait tout à l'heure de générationnel, je me suis dit, tiens, je vais prendre une équipe de femmes, mais donc il y a vraiment toutes les générations, 20, 30, Sarah Stern, Horatica, Sandrine et Brigitte. Et pour moi, c'était de tricoter comme ça toutes ces générations et donc de m'approcher de ces portraits de femmes. Plus que de parler de la naissance elle-même, c'était elle-même son mère, ou si elles sont pas mères, elles sont toutes, de toute façon, on est tous l'enfant de quelqu'un, donc l'enfant d'une mère, donc ça peut tous nous parler et essayer de trouver en chacune le petit rapport à la mère. Donc il y avait cette idée de je sais que j'ai eu le déclencheur vraiment de l'adaptation quand j'ai compris que je tenais mon film, parce qu'au départ c'est pas évident quand on est dans une adaptation. Il y a certaines adaptations, les livres sont écrits pour être adapté au cinéma. Le livre de Julie, c'est était pour moi plus comme un témoignage, comme une matrice, mais avec laquelle il fallait que je trouve un sens à cette histoire, parce que moi je prenais pas la deuxième partie de la danseuse nue, et il fallait que je trouve comment moi je pouvais m'approprier ce livre.
Alors la danseuse, elle devient chanteuse dans le film, c'est
voilà.
Ça expliqué. Vous dites, Marie-Hélène, j'aimerais qu'on revienne là-dessus, que vous ne prenez pas l'aspect un peu noir, on va dire, du livre, qui raconte aussi la violence de certaines naissances, qui raconte les morts, alors ça vous en racontez, mais des accidents engendrés par les naissances, ce poids-là, quand même c'est un théâtre un peu tragique aussi, l'hôpital, même la maternité.
Oui, et surtout c'est souvent tabou, et moi je voulais surtout pas que ce soit tabou, enfin moi pour moi j'ai tout de suite voulu, on commence avec la mort d'un nouveau-né, donc voilà, je spoile rien, mais je voulais surtout pas le traiter de façon tragique, quand c'est la vie, c'est normal, ça leur arrive une fois par mois. Donc c'est normal, on va dire, un nouveau-né qui meurt, c'est pas normal,
c'est leur quotidien.
Mais c'est leur quotidien, merci. Et pour moi, c'était vraiment important d'en parler pour finir aussi un accident, mais voilà, heureux, enfin bref, on va pas dire la fin, mais c'était important pour moi de parler de la mort, comme on finit aussi le film sur cette chanson de Nicoletta, Mamie Blue, qui revient à plusieurs reprises, mais qui parle justement de sa mère qui vient de mourir, mais mort de vieillesse, c'est normal, et c'est la mort de la mère, et j'avais envie un peu comme ça de toutes les facettes de la mère, et parler de nos mères et parler de nous en tant que mères. Et le déclic que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais eu, c'est que moi, mes enfants sont partis quand j'étais en train d'écrire le livre. Et le départ de ma fille a été vraiment le déclencheur où je me suis dit, ah mais oui, d'accord.
Au
moment d'écrire le film. Mmh. Et je me suis dit, il faut que... Parce que j'ai dit le livre.
Ouais.
J'ai vu tes yeux, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça. Non, là, je me suis dit, mais oui, en fait, il faut que je vieillisse le personnage, il faut qu'elle ait mon âge, et il faut que sa fille parte. Et là, c'est ça aussi la maternité, c'est savoir dire au revoir à son enfant, c'est aussi savoir le laisser partir. Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'est que elle peut laisser sa fille partir quand sa fille elle-même l'a emmenée vers son univers, l'a emmenée vers sa passion et lui a appris aussi à respirer.
Alors en même temps, ces histoires de transmission, Julie Bonny, elles sont relativement douloureuses. Alors pour revenir à l'histoire de la stagiaire, dans le livre Chambre 2, c'est une histoire quand même assez violente, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le médecin crie sur la sage-femme, qui elle-même s'agace sur l'autre, qui s'agace sur la stagiaire, c'est-à-dire on voit une sorte de cascade comme ça, hiérarchique, et la frustration et la violence qui en découle.
Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Après, il faut excuser Béatrice, elle était très fatiguée ce jour-là. C'est vrai que la scène est assez terrible. Mais il est vrai aussi qu'on peut arriver à des états d'épuisement à l'hôpital par surcharge de travail qui est absolument délirante, où on devient hors de soi, c'est-à-dire qu'on se rend même plus compte qu'on devient odieux. Et c'est ce que je voulais dire aussi avec Béatrice, c'est qu'elle est tellement, et elle particulièrement, parce qu'elle est hypersensible, elle est tellement au bout du rouleau qu'elle est capable de devenir odieuse, tout simplement. Elle est absolument odieuse dans cette scène. Mais faut l'excuser.
Alors ça, c'est une ficelle aussi de fiction. C'est un bon ressort de fiction parce que on est toujours dans l'image de la maternité, du care, du soin, etc. Et en réalité, là, il y a une autre facette qui apparaît, c'est la souffrance et tout ce qui est retenu. Et la souffrance déversée sur le personnel aussi. C'est comme ça qu'elle le ressent parfois.
Oui, bien sûr, c'est maltraitant, tout est maltraitant. En fait, à partir du moment où on est en surcharge de travail à ce point, c'est-à-dire que il n'y a pas d'issue, chaque journée est pas assez. C'est-à-dire que pour finir une journée, après une garde de 12 heures où on n'a pas eu le temps d'aller pisser, il faudrait 5 heures de plus pour finir la journée correctement, en ayant l'impression d'avoir fait bien son boulot. Or, moi, j'ai croisé en maternité que des gens super, c'est-à-dire des gens qui ont fait ce métier-là parce que, justement, ils étaient dans le care, dans envie de s'occuper des autres, envie de... On fait pas ces métiers-là par hasard, on fait pas ces métiers-là pour le fric, on fait pas ces métiers-là pour le pouvoir.
Dans le film, hein, t'es moins payé qu'une femme de ménage.
Oui, on est moins payé. Moi, j'étais moins payée qu'une femme de ménage classique. Oui, donc c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là. On fait ce métier-là, c'est une grande question, mais sûrement pas pour ces raisons-là. Et la plupart du temps, les gens que j'ai rencontrés étaient des gens qui étaient plein d'amour et de bonté. Mais au bout d'un moment, quand on est au bout du rouleau, on ne tient plus le choc, quoi.
Je vous propose d'écouter la psychologue Pascale Monnier, justement sur ces questions du care. C'était sur France Culture en 2008.
Quand on entend en français soin, on entend quelque chose qui renvoie aussi à une dimension très curative. Or, en anglais, il y a deux termes. Il y a le cure, qui prend en charge tout ce qui concerne la dimension curative, et le care, qui effectivement est plutôt du côté du prendre soin. Alors que soin tout court, ça renvoie au soin au sens médical, et par exemple pas à l'activité d'une mère de famille. Donc quand on dit soin, sollicitude en français, on n'entend absolument pas la dimension travail. Et ça, pour moi qui suis psychologue du travail, c'est très très important.
Vous parlez de savoir-faire discret.
Pour que ça marche, le travail attentionné, il ne faut pas que ça se voie. Alors, c'est une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que déjà, c'est difficile à formaliser. Mais en plus, souvent, pour que ça soit bien fait, il faut que ça soit invisible aux yeux de celui qui en bénéficie. Si vous voyez, il y a deux attitudes. Par exemple, vous êtes très fatigué, vous arrivez dans ce bureau, vous êtes très fatigué. Je vous dis, oh là là, quelle mauvaise mine vous avez, etc. Ça, ce n'est pas care du tout. Je vous tends une chaise, je vous propose un café. Ça, c'est une attitude caring. Dans la discrétion aussi, par exemple, les auxiliaires de péricultrice dans les crèches, elles racontent que quand un enfant a fait ses premiers pas ou dit ses premiers mots à la crèche, elles ne le disent pas à la famille pour que la famille ait le plaisir de cette première fois. Donc elles escamotent finalement une partie de leur travail, elles cachent, elles gardent dans l'ombre toute une série d'activités, de moments, etc., par attention, par souci des familles.
Qu'est-ce que ça vous évoque, Julie Bonny, ces propos de Pascal Molinier? Le care, c'est la science de l'invisible.
Ouais,
ça a été votre expérience.
C'est fou. C'est même bon, c'est absolument pas moi qui l'invente, hein, mais c'est aussi la science ou je ne sais quoi de ne rien faire, d'être juste là. Il est souvent nécessaire de pas agir. Et en fait, d'être juste là pour comme une présence rassurante et bienveillante, ça suffit. En fait, on est En réalité, en tant qu'auxiliaire de puériculture, notre travail, par exemple, sera apprendre à une jeune maman à changer la couche de son bébé, ce qui est quelque chose d'absolument passionnant. Et personne ne doute qu'à un moment donné, elle va savoir le faire, en fait. Et personne ne doute non plus, en réalité, qu'elle sait le faire. Alors, qu'est-ce que c'est notre travail à ce moment-là? C'est en fait lui donner la confiance nécessaire à le faire tranquillement et à pas paniquer et à se dire que voilà, c'est juste changer une couche et qu'elle va le faire 1000 fois dans sa vie, à la fin, d'une seule main, avec un autre bébé dans les bras, etc. Mais il faut du temps pour ça. Et ça, c'est très frustrant parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on est débordé de rentrer dans une chambre, d'attraper un bébé, de lui changer sa couche vite fait et de le remettre dans le berceau, plutôt que d'être là à aider une jeune maman un peu fragile, on va dire, fragilisée par ce qu'elle vient de vivre, et de la regarder, de sourire juste, de lui dire, même pas de l'encourager, en fait, d'être juste là et de
prendre le temps.
Voilà, on manque de temps terriblement.
D'ailleurs, dans le film, c'est ce qui se passe. Hein. On lui dit, mais elle dit, bah, je prends mon temps, je fais bien mon travail. Elle dit, bah, si on faisait tout ça, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ça, j'y tenais beaucoup. Ouais. On avait vraiment cette idée de prendre le temps. Je pense que le métier serait complètement différent.
C'est essentiel. En fait, c'est absolument essentiel. Et on devient vite des dragons parce que on le sait qu'il faudrait prendre le temps. Et quand on n'en a pas, on devient. Ça fait un frottement électrique comme ça qui fait qu'on est tout le temps en train de faire mal son boulot, quoi.
Est-ce que, Marie-Hélène, vous aviez le souci d'aller voir ce qui se passait dans les maternités, d'aller en discuter, ou est-ce que le rapport à la fiction faisait qu'au contraire, il valait mieux rester dans son imaginaire à soi et ses représentations pour réussir à donner autre chose, cinématographiquement parlant?
Oui, bah en plus, moi, j'ai travaillé quand j'avais 18 ans dans un hôpital, donc en job d'été. Donc, c'est un milieu qui m'avait suffisamment traumatisée. À l'époque, du coup, j'en ai vraiment, j'avais besoin d'en parler avec le livre de Julie. Du coup, ça faisait vraiment un écho très fort. Et je trouve que le livre de Julie est déjà dans les scènes, et puis Julie après dans toutes ses expériences. J'avais, à la limite, j'ai envie de dire, pas besoin d'aller en maternité en plus. En revanche, on y a été dans les repérages après. Et c'est là où j'ai rencontré Anne-Lise Lemaire qui nous a coachés. Et où on a pu tourner les images documentaires et qui joue dans le film aussi la dernière scène avec Sandrine.
Alors elle vous a coaché pour quoi? Elle a coaché les actrices?
Alors les actrices, nous aussi sur le scénario. Par exemple, cette femme dans le coma, typiquement, dans le livre de Julie, c'est très littéraire. C'est littéraire, c'est symbolique.
D'ailleurs, on dit catatonique, hein, c'est ça le terme qui est employé dans le film. Cette femme qui a eu deux enfants, l'un est vivant, l'autre est mort,
voilà.
Et qui est restée dans une sorte d'état second. Qui fait qu'elle va rester pendant un temps infini dans cette chambre.
Alors en même temps, le film ne dure que 8 jours, hein, donc c'est pas un temps infini, mais dans le
livre, on ne sait pas exactement.
Dans le livre, c'est un temps infini et c'est évidemment impossible.
Et moi, voilà, c'est impossible. Et donc moi, j'étais un peu soucieuse par rapport à ça parce que j'y tenais beaucoup à cette danseuse qui ne peut pas danser et je tenais beaucoup à cette personne dans le coma parce que pour moi, quand le personnage de Sandrine la voix, elle se sent en plus responsable de cet accident parce que c'était elle qui devait s'en est occupée, qui a reçu cette femme. Et donc il y a une image, il y a un mimétisme comme ça qui va de l'une à l'autre. L'une, elle sait qu'elle veut être danseuse. Elle était chanteuse. Elle va essayer de lui réapprendre la danse dans malgré ce coma et d'avoir toujours le geste et toujours l'idée du geste, le geste qu'on reprend avec l'émission de radio justement qu'elle écoute sur France Culture. Et donc tout le Enfin, mon idée, c'était un peu comme un cadavre exquis, comme ça, et de filer les idées. J'ai perdu le fil du début, d'ailleurs.
Mais c'est très bien, c'est comme ça, on fait des petites échappatoires, comme ça, et on va s'échapper du côté de la lecture. Julie Bonny, vous avez accepté de nous lire un extrait de Chambre 2, et ça se passe à l'hôpital, puisque il y a une alternance entre ces scènes de danse et celles de l'hôpital. Là, c'est l'hôpital.
C'est la chambre 5. Il me reprend d'avoir envie de danser. Entre deux chambres, ça me monte dans le corps. Je retrouve certaines sensations. Ça s'accroche d'abord dans le cœur. J'étire le bas de mon ventre. J'aspire mes organes. Je respire tout ce que je peux. J'inspire dans ma blouse trop petite. Si je soufflais cet air d'un coup, la maison en pierre du troisième petit cochon volerait en éclats. Je ne suis pas très adaptée au travail. Et pourtant, j'attaque la chambre 5. La dame de la chambre 5 a un petit carnet rempli de questions. Elle note tout. Dès que j'arrive, c'est le déluge. Combien de fois par jour dois-je laver mon bébé? Combien de fois dois-je lui donner le sein? Pendant combien de temps? Vous pensez qu'il faut donner le sein jusqu'à quel âge? C'est mieux de le baigner le soir ou le matin. Je dois dormir avec lui, ça ne va pas lui donner de mauvaises habitudes. Je peux le laisser pleurer un peu, combien de temps? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des vaccins? Lesquels? Quand? Il vaut mieux une nounou ou à la crèche? On peut donner son lait? À qui? Quel genre de crème je peux mettre sur mon corps? Est-ce que parfois mon bébé pleure pour rien? C'est possible qu'il ait mal au ventre? Est-ce qu'il voit bien? Comment je sais s'il a froid? C'est une bonne idée de lui caresser la tête quand il tète. Il ne va pas devenir capricieux si je l'ai trop dans les bras. Il y a un moyen pour qu'il fasse ses nuits? Est-ce qu'il est sensible au bruit? Je pourrais aller dehors avec lui à partir de quand? Comment faudra-t-il que je le couvre? En écharpe ou dans la poussette? Si son papa veut lui donner un biberon, quel lait? C'est une bonne idée de lui donner une tétine? Je donne une réponse à chaque question. Pendant ce temps, le bébé est posé dans son berceau le plus loin possible. Et c'est moi qu'elle écoute. Moi, l'autorité avec la blouse. Moi, la folle qui veut être normale. En toute logique. Elle n'entend pas son bébé qui parle. Je ne suis pas sûre que mes réponses vont arranger les choses. Ce nourrisson a probablement une vision bien différente de l'histoire. J'imagine que, quand elle pensera à lui, plus tard, elle lui enverra mentalement une liste de questions qui n'obtiendront jamais de réponse, lancées à l'aveugle dans la galaxie de l'amour maternel. Est-ce que tu aimes le jambon? Est-ce que tu as froid? Tu t'es lavé? Est-ce que tu m'aimes? Tu es heureux? Je te manque quand tu n'es pas là, quand je ne suis pas là? Suis-je une bonne mère? Est-ce que tu fais de beaux rêves? Est-ce que tu as peur? Si cette dame fait bien ce qu'on lui dit, elle sera une bonne mère. Tant mieux pour elle. Je me demande si elle avait le mode d'emploi pour faire l'amour. Difficile à dire. Son compagnon lisait son journal, n'a pas levé le nez. Ce qu'elle a, cette dame, c'est un carnet entier de grande et pure solitude.
Merci beaucoup d'avoir accepté de lire. Marion Laine, ce que l'on entend dans le roman, c'est le portrait interne de l'expérience de la soignante qui reçoit toutes ces informations-là. Et ce procédé-là, vous allez l'utiliser, mais le transformer, puisque c'est dans le discours des soignantes qui se parlent entre elles que l'on va comprendre les mères. Et chaque chambre est une atmosphère différente.
Oui. Bah, ce que je disais tout à l'heure, en fait, où je me suis plus tournée vers le personnel que vers les mamans, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à justement cette femme dans le coma, Anne-Lise, en lisant le scénario, donc qui est la sage-femme qui chez qui on a tourné, me disait que c'était complètement crédible qu'elle avait eu, elle, une personne qui avait aussi accouché de jumeaux, donc qui était mort, et la femme n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Elle avait eu une paralysie faciale, le cerveau, enfin voilà, la douleur était trop grande pour pouvoir supporter la mort de son nouveau-né. Donc
ces histoires de mères, on les retrouve à travers notamment cette salle dans laquelle arrive la stagiaire, dans laquelle discutent les sages-femmes, les auxiliaires de puériculture entre elles, et les expériences, c'est un panel très très varié puisqu'il y a à la fois des drames, des mères perdues. Et des mères pour qui tout va bien. Il y a cette chambre très poétique avec ce couple très heureux.
Ah oui, ça c'était important. C'était important aussi de montrer que
il y en a quand même.
Oui. Non. Et puis mais c'était plus. Moi, j'aimais bien l'idée quand j'ai lu le livre de Julie où je trouvais ça vraiment nouveau. C'était qu'on arrêtait de dire c'est le plus beau jour de la vie parce que voilà, c'est pas toujours le plus beau jour de la vie et c'est pas grave. Et si on n'allaite pas, c'est pas grave. Et si on n'est pas une super maman tout de suite, c'est pas grave. Et
ça, parce que c'est pas le plus beau jour de la vie, mais c'est c'est pas grave. C'est sûr. Et aussi, il faut accepter que ce soit ambivalent. On peut être hyper heureux et hyper fatigué et hyper triste et avoir peur et être anxieux et que la naissance d'un enfant ramène toutes les idées macabres qu'on peut avoir parce que la vie et la mort, ça va ensemble. Et ce que j'ai vu, moi, qui était le plus perturbant, c'est toutes ces femmes qui sont en larmes et qui disent « tout va très bien ». C'est vraiment ça. On a le droit d'avoir des sentiments ambivalents là-dessus.
Alors, ce qui est très ambivalent aussi, c'est ce rapport au passé, ce rapport très poétique. Alors, c'est là où, à la fois, il y a des éléments d'autobiographie et en même temps, c'est là où la fiction apparaît peut-être de la manière la plus prégnante. C'est comment est-ce que, finalement, la blouse fait entrer dans une nouvelle identité et le passé ressurgit au moment où l'enfant s'en va. c'est-à-dire l'enfant du personnage principal, et ce passé de musique réapparaît. Alors là, c'est de la fiction dans la fiction.
C'était l'envie de faire... j'aime bien qu'il y a plusieurs déclencheurs, donc j'aimais bien le fait que le film se passe sur quelques jours, et quelques jours, peut-être les plus importants de sa vie, parce que... C'est un tournant, voilà, exactement, j'allais dire, elle est au mi-temps de sa vie, et est-ce qu'elle prend le chemin de droite ou le chemin de gauche, et voilà, et elle sait plus trop où elle en est, elle sait plus où elle en est, et là, il y a cet accident qui est peut-être de sa faute, puis le passé qui ressurgit, où on lui annonce la mort du chanteur du groupe pour lequel elle jouait, du musicien, et puis sa fille qui s'en va. Et en fait, ça va être, comme c'est un passé qu'elle avait occulté, c'est en acceptant, c'est la mort encore une fois, la mort qui est quand même un peu derrière, mais toujours de façon, non pas légère, mais elle est pas abattue d'apprendre la mort de quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis 17 ans. Voilà, elle apprend sa mort. Et c'est juste, en revanche, ça va lui apporter la paix. Et surtout, accepter son passé.
Parce qu'elle va en parler, parce que ça va se savoir à l'hôpital.
Enfin. Et elle n'avait pas chanté depuis 17 ans et elle refusait de faire partie de la chorale de l'hôpital parce qu'il y a une chorale à l'hôpital et elle s'était dit, voilà, elle a tiré un trait parce que c'était trop violent cette époque-là, en tout cas ce moment-là, et puis peut-être parce que aussi c'était trop violent de s'en souvenir et que peut-être pour pouvoir être bien dans le présent, il fallait qu'elle occulte le passé. Moi, j'aime beaucoup la phrase, pour moi c'était vraiment très important, une des phrases très importantes qu'elle dit à sa fille, c'est quand elle lui dit, mais pour moi, j'ai pas voulu te mentir, parce que sa fille est furieuse quand elle apprend la vérité, et c'était, j'ai pas voulu te mentir, je me disais que si ça n'existait pas pour toi, ça finirait par ne plus avoir existé pour moi. Et ça, c'était vraiment, je trouve que, voilà, j'aimais bien que ce personnage, et en fait, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, et quand enfin elle peut parler de son passé, ça lui fait du bien. Elle peut en parler à sa fille et sa fille peut enfin partir aussi. Enfin, c'est pas...
La question des origines, elle est retravaillée pour les deux.
Voilà, exactement.
Alors, on va écouter cette chanson. Alors là encore, réalité et fiction, c'est Julie Bonny qui compose la chanson, qui la chante, qui a écrit le livre, dont le film de Marion Laine.
Mais c'est Sandrine aussi, qui la chante,
Absolument.
Revenir au début, non, revenir au début.
Mon air, c'est de l'eau, donc c'est extrait de la bande originale du film, chanté par Sandrine Bonner dans le film.
Oui, dans Marie-Hélène. Le film. En fait, on avait besoin de la version avant, donc c'est Julie qui... Là, c'est la version de Julie, parce que comme on la met dans le film, donc on en avait besoin avant, et ensuite, pour le générique et tout, enfin, on l'a retravaillé, et c'est Sandrine qui chante après.
Alors c'était quand même touchant que d'avoir aussi l'auteur du livre qui composait une chanson pour le film. Ce travail avait un peu de transmission aussi entre vous deux.
Exactement.
Alors ces glissements artistiques, c'est pas simplement un procédé narratif d'alternance entre les deux, c'est aussi des vraies échappées sonores et dramaturgiques pour vous dans le film. C'est des vraies bulles de respiration, ces moments sur la vie passée, parce que c'est tout à fait un autre univers qui apparaît.
Oui, j'avais envie de dérouter. J'espère que je déroute pas trop le spectateur, mais c'était le but. Je voulais pas faire un film qui se passe que à l'hôpital. J'avais vraiment besoin de ces échappées, et donc tout le travail consistait à savoir comment s'échapper dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans le souvenir, et comment tirer ces fils pour construire mon histoire et essayer de rentrer dans la tête de Sandrine, alias Jeanne.
Alors en même temps, la musique, elle apparaît aussi à l'hôpital, hein, outre la question des voix et de l'univers sonore. La stagiaire aussi, elle a son univers musical, elle va chanter avec les bébés.
Oui.
Ça va être une de ses particularités. Marie-Hélène, c'est de voir comment est-ce que finalement on rentre en communication avec ces petits êtres pas encore parlants. C'est une question qui vous intéressait aussi, d'y rentrer par le son. Il y a cette scène.
Ah ben bah oui, complètement. Pour moi, la musique était vraiment dans ce film primordiale. Donc c'est pour ça qu'avec Béatrice, il y avait vraiment un travail déjà au niveau de la musique. Quand vous parliez de l'univers sonore de l'hôpital, je voulais vraiment que sa musique entre en relation avec le son du film, c'est-à-dire les chariots, les plateaux, le fer, les portes qui claquent, tous ces bruits, le bruit des sabots justement, des pas, des cris, des rires, bouteilles de champagne, enfin ça c'était vraiment pour moi très important.
Là, on entend le
donc
rap.
La chanson, voilà, oui, ça c'est la chanson de Kenza.
Émergé de l'inertie, engendré par le bitume et ses coutumes, transformer les énergies pour ne pas que ma vie bascule dans les abîmes, échanger néant sublime, partie de rien vers des horizons.
Et c'est avec ce rap-là qu'elle chante avec les bébés, hein.
Voilà, oui.
Calme, et ça c'était aussi ce petit clin d'œil générationnel, hein, qui
oui.
est un peu la trame du film aussi, c'est qu'est-ce qu'elle
oui,
fait une génération de femmes.
Voilà, oui. Puis quand je disais la boucle, c'est-à-dire que Sandrine se reconnaît plus dans cette petite stagiaire qui veut être chanteuse. À la fois, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Oh bah je sais pas. Puis si je suis pas chanteuse, je serai auxiliaire. Elle sait pas trop si elle est venue là. Elle est arrivée là par hasard. C'est le CAP qu'elle pouvait faire. Elle a coché la CRA. Et en fait, elle va se découvrir, je pense, une vocation. Enfin, il y a un vrai intérêt pour les bébés. D'un seul coup, elle voit les bébés. Et c'était vraiment Kenza, pour le coup, l'actrice, qui, à la fin du film, a dit, oh, bah, de toute façon, si j'y arrive pas comme chanteuse, je serai auxiliaire. C'est trop bien. et qui vraiment, avec ses bébés, elle était tellement heureuse et tout. Et donc, il y avait vraiment ce rap qu'elle écoute. Enfin, c'est de la musique. Elle a tout le temps ses écouteurs. On l'engueule avec ça. Et donc voilà, elle parle au bébé. Oui.
Il y a une dimension qui apparaît, qui est une dimension sororale, qui apparaît aussi d'ailleurs dans le livre, entre les membres du personnel. D'ailleurs, finalement, quand arrive une tragédie, tout le monde quand même est plus ou moins solidaire, en tout cas une grande partie autour du personnel de l'hôpital. Il y a cette question de la culpabilité, de la peur qu'il arrive quelque chose. Il y a quand même des moments de partage importants entre les équipes. C'était aussi ces liens-là que vous aviez envie de creuser.
J'avais vraiment été très impressionnée par la sororité, la transmission, la solidarité entre toutes ces femmes, ces soignantes et puis les expériences aussi, ce que me racontait Julie. Mais même si dans le livre de Julie c'est plus dur, moi je voulais pas parler du ce dont tu parlais tout à l'heure, qui est très juste, justement, pour moi, elles sont toutes, il n'y a pas de côté négatif, il n'y a pas la méchante auxiliaire qui est très dure avec vous, et pourtant, on en a toutes connues. mais je trouve que c'était important de dire, parce qu'elles sont au bout du rouleau, parce que vraiment, elles en peuvent plus. Et moi, j'avais ce médecin, effectivement, qui est un peu dur. On me dit, oui, mais il est trop dur, le médecin. Mais dans le livre, il est beaucoup plus dur.
Et dans la réalité.
Et dans la réalité, vraiment, tous les témoignages, là, toutes les promos que je fais, et les témoignages que j'ai, et tout le monde me dit à chaque fois, mais c'est encore plus dur dans la réalité. Alors, peut-être pas la jeune génération qui arrive, Mais voilà, c'est un fait. C'est donc j'ai pas parlé de, j'ai pas parlé voilà, de... j'ai été moins dure que la réalité.
Julie Bonny, ça c'est un élément qu'on retrouve fortement dans Chambre 2, c'est que cette danseuse nue, elle est relativement épidermique dans ses émotions aussi, et elle ressent très fortement la violence. Des médecins, des réactions autour d'elle, et elle est beaucoup plus ambivalente à l'égard de la question de la sororité
entre la du personnel. Ah oui, c'est rien de le dire. Elle est.
Elle a pas les codes au départ. Hein.
Elle a pas beaucoup de codes, alors qu'elle se retrouve dans un lieu qui est ultra codé. Et ça, c'est aussi quand même un truc là personnel, c'est quand on débarque en tant que soignant à l'hôpital pour la première fois de sa vie, on ne sait rien. Et là, il faut apprendre tout super vite et avec personne qui va vous apprendre. C'est-à-dire qu'il faut juste observer, regarder. C'est des grands moments de panique. Quand même.
Donc, il ne faut pas parler de n'importe quoi avant de prendre son service.
C'est surtout
un art de la conversation.
De la conversation, puis de juste de tous les termes, toutes les façons de faire. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Bon, pour revenir en tout cas à la sororité, c'est vrai que le personnage a quand même cette amie, Francesca, sa seule amie finalement. Elle arrive à sympathiser avec une seule personne. C'est déjà pas mal. Et moi j'ai vu de la solidarité mais pas que.
pour être très honnête,
mais c'est vrai qu'on peut pas non plus demander, on peut pas en demander trop non plus quoi, je pense. Ça reste le milieu du travail aussi.
Alors, d'autant plus que là, c'est un lieu aussi de danger, on a pu le dire. L'accident est toujours possible et l'accident dans le film il arrive.
Dis-moi Sylvie.
Oui.
Je voulais te dire à propos de... Je sais pas quoi faire, je me sens responsable.
Est-ce qu'il a fallu que j'aime te chercher? En même temps, regarde, moi j'en ai profité pour aller fumer une clope. Peut-être que si j'avais pas fumé de clope, le petit serait toujours vivant. On sait pas. Quand ils ont posé le monitoring, il n'y avait plus qu'un cœur qui battait, mais aussi bien, 10 minutes avant, il y en avait deux. Hein.
J'arrête pas d'y penser.
Oui, mais tu sais quoi, en même temps, on n'est pas des robots, nous. Moi, faut bien que je boive, que j'aille pisser, que je fume. Eux, ils veulent des robots. Ben, ils ont qu'à engager des robots. Et ce pauvre mec, il a raison de porter plainte, parce qu'il y en a marre de ces conditions.
Et tu sais ce qui va se passer?
Ouais, ben... Ils vont faire une autopsie, et puis... Aussi bien, le petit était clamsé depuis la veille, quoi. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc... Alors...
Alors Marie-Hélène, on entend que la question des conditions de travail et de la culpabilité, elle résonne même un peu étrangement cette période de pandémie. C'est un discours politique qui est tenu là, au-delà de la question de la fiction.
Oui, complètement. Même si j'ai écrit ce scénario bien avant et que,
mais les conditions de travail étaient déjà difficiles avant.
Oui, parce que moi, je vous dis, j'étais étudiante, hein, donc c'était il y a très longtemps, et j'étais déjà dans des conditions de travail difficiles puisque j'entrais à l'hôpital, je devais juste être femme de salle et je me suis retrouvée à faire des pansements, à devenir aide-soignante au bout du quatrième jour, à signer un protocole de confidentialité parce que il manquait tellement de personnel qu'il y avait des choses aberrantes qui se passaient dans l'hôpital et qu'il fallait pas en parler. Et puis voilà, et puis la mort de cette femme de 36 ans qui aurait jamais dû mourir et qui avait une péritonite et qui a pas pu être soignée parce que le chirurgien était trop fatigué, l'autre n'était pas là. Enfin bon, c'était et ça m'a traumatisée, c'est évident. Enfin, j'avais 18 ans et c'était et voilà, et ça c'est revenu à travers le livre de Julie. Donc c'est politique bien sûr, mais je fais ça de façon je dirais c'est plus un constat. C'est un constat triste, mais c'est plus un constat et encore plus triste quand on voit qu'on les a applaudis pendant 2 mois et qu'en juin, elles vont manifester et qu'on les gaze. Donc c'est...
Et puis il y a l'accident vécu, puis il y a l'accident évité de justesse qui existe aussi dans le roman Chambre 2, ce moment où la sage-femme vient... l'auxiliaire de puériculture se retrouve à chercher dans les couloirs quelqu'un pour l'aider à faire respirer ce bébé.
Je me souviens que toi, vraiment, je me souviens à l'époque où tu me disais toujours, c'est la peur, les cauchemars de faire tomber le bébé. C'était à chaque fois ce truc au début, quand on est un jeune auxiliaire, la chute du bébé. Moi, je trouve que c'est aussi un film que j'ai vraiment travaillé sur la chute. Tout le monde tombe tout le temps.
Ça glisse un bébé. Hein.
Ça glisse.
C'est glissant.
Eh bien, merci, c'était le mot de la fin. Merci Marie-Hélène et Julie Bonny. Le film s'intitule Voir le jour avec Sandrine Bonner et Horatica. Il sort en salle aujourd'hui quant au roman qu'il a inspiré, Chambre 2. Publié chez Lafont, il existe désormais en format poche aux éditions Pocket. Tout de suite, la fiction Imagine le monde de demain de France Culture avec la SACD. Aujourd'hui, demain, j'arrête de Claire Fégreux, réalisé par Laurence Courtois.
Toutes ces questions nous plongent dans la nécessité d'entrevoir en chacun
demain, j'arrête. Possibilité de ne vivre que pour une soi. Fiction écrite c'est par Claire Fégreux.
Je remets le fromage au frais.
Oui.
C'est pas ça, Sandrine.
Oui.
Au frais frais ou sous le torchon?
Attends, hop. Attends. Je finis le calendos alors.
Bah, tu fumes ou tu manges?
Ouais. Ouais, poète, camembert. Hop. Camembert. Pas ce cendrier, là.
Plus personne en veut.
Non, non.
Les enfants?
On pourrait éteindre la radio.
Passe ton masque de crouton aussi.
Plus personne ne veut rien.
Non, non.
J'en remets le fromage au frais.
Maman, on peut éteindre la radio?
Non, c'est bon, papa, je suis full.
Mais remets le torchon dessus, hein.
Oh, j'ai trop bouffé, là.
Non, mais sérieux, on peut éteindre la radio, maman, s'il te plaît?
Tu veux éteindre?
Bah, quand je demande si on peut éteindre, il y a un indice dans la phrase, non?
Ouh, les balles volent vite, là. 15A.
Oh, j'y ferme là.
Ouh, j'ai agressivité. La balle repasse à l'adversaire. Et malgré la pluie qui tombe à grosses gouttes sur ce cours qui a vu naître tant d'échecs et de déceptions, elle lève sa raquette, racket ball 3000, le partenaire qualité indispensable de vos échanges, et s'apprête à renvoyer la balle avec...
Oh, j'y t'es chiant.
Oh non! Une insulte! Quelle déception, quelle tristesse! Quelle débandade pour cette balle qui rebondit mollement.
Ok, bah vas-y, t'es quoi? Fais ton truc, fais ton show, puis quand t'auras épuisé tout le champ lexical du tennis, tu nous préviens, tu nous fais signe quand les autres peuvent en placer une.
Oh, les enfants...
Papa, on peut éteindre la radio, s'il te plaît?
Oui, oui.
Tu veux éteindre?
Oji, tu te moques de moi, là?
J'éteins, alors?
Non, pas du tout, maman.
J'éteins ou pas?
Aïe, 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 l'arbitre est perdu dans le doute, il va demander à revoir la vidéo.
Oji, tu saoules. Oui, papa, s'il te plaît.
Quelle vidéo?
Je sais pas. Non, rien. La vidéo dans le tennis, quand on sait pas si une balle est faute ou pas, on...
Ah, ils font ça.
Sans déconner, on peut éteindre la radio?
Oui.
Oui, oui.
Eh mais calme-toi, ça, Dodum. T'as tes règles ou quoi?
M'appelle pas comme ça.
Bon, j'éteins. Pourquoi tu l'es fait chier avec la radio?
Parce que j'ai un truc à vous dire, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? T'es enceinte?
Non.
Ah bah c'est ce que je te dis, t'as tes règles.
Oji, sérieux, arrête d'avoir 12 ans!
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, ça va?
Oji, sérieux, arrête d'avoir 12 ans!
Ok, donc littéralement une réaction de gamin de 12 ans. Merci pour la démo, c'était parfait.
J'en remets la radio?
Non, papa!
Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie?
Ça va?
De 2 mètres?
Non, maman, m'appelle pas. Oui, ça va. Enfin, ça va pas, il y a un truc qui va pas, mais pas un truc grave. Enfin, c'est grave pour moi, mais... Non, mais bref, c'est pas grave, mais c'est important. Voilà. Mais rien de... Enfin, flippez pas, j'ai pas un cancer ou quoi.
Bien joué, Dodon.
Pardon, papa, c'est parce que... Enfin, rien à voir avec la santé, quoi. C'est juste que... Bah, je peux plus être qui je suis.
Qui tu es?
Enfin, ce qu'on m'a assigné, quoi. Qu'on m'a demandé d'être, je veux plus.
Quoi, tu deviens trans? C'est trop bien, ça. J'ai toujours rêvé d'avoir un grand frère, en plus.
Oji.
En plus, ce truc de plus s'épiler, tu vois, je savais.
C'est vrai?
Mais non, maman, rien à voir. Et Oji, ferme-la, t'es con avec tes réflexions de merde, niveau moins 12.
Oh, les enfants.
Pardon. Ah, face à une telle autorité charismatique, en effet, moi, je me tais. Ah,
sinon, pour info, le genre de quelqu'un, ça se calcule pas en nombre de poils au centimètre carré d'aisselle. Hein. Mais si tu veux rester dans tes schémas de merde, avec tes blagues Roland Garros de merde, écoute...
Ma chérie, on t'aimera toujours.
Oui, oui.
Oh là là, vexé par une blague de son frère, Dodum quitte le terrain en direction des vestiaires, peut-être se lance-t-elle à la recherche de son sens de l'humour.
Bon, ma chérie, quoi que
non,
tu...
Non, mais c'est pas ça, maman, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste Oji qui fait des blagues de 5ème B. Que si c'était ça d'ailleurs, ce serait juste hyper oppressant. Mais en l'occurrence, ça n'a rien à voir avec ça, maman.
Oppressant?
Oui, oppressant. Et vas-y, stop, fin de la discussion, parce que dans 5 minutes, il nous sort qu'on peut plus rien dire et ouin, et il invoque Saint-Coluche. On la connaît, la limonade.
Bon, ok, alors vas-y, dis-le ton truc là, crache-la, ta balda, Sainte-Marie des oppressions.
Ah, ouais.
Est-ce que je fais des cafés?
Non, non.
Non, non, mais attends, elle va dire son truc là. Et Dodum remonte sur le coup.
Oji, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît?
Non, mais arrête, en vrai, là, tu commences à me faire flipper là.
Bah, je sais, sinon tu ferais pas ta voix de Roland Garros.
Ouais. Merde. C'est vrai.
Mais c'est pas flippant, c'est pas une question de flipper, c'est juste...
On t'écoute.
Oui.
En fait, je peux plus être ce que vous vouliez que je sois, j'ai pris une décision et je vais changer de nom.
Elle va s'appeler Jean-Pierre.
Bah du coup, belle démonstration sur le niveau de vanne, Oji.
Attends, mais comment ça changer de nom? Pourquoi?
Parce que je peux plus, c'est trop lourd. Je sais que vous pensez pas à mal, hein, je vous en veux pas, mais je peux plus être demain. C'est trop pour moi, j'ai pas la force. Demain par-ci, demain par-là, vous vous rendez pas compte de la pression que c'est en fait. Tout repose sur moi tout le temps et franchement, je craque.
Ragna.
Oji, merde, à la fin. Je sais que t'esquives les trucs compliqués, mais je suis sérieuse, là, c'est important. Et c'est important que vous m'écoutiez, et c'est important qu'il n'y ait pas la radio, et c'est important que je... En fait, c'est important, tout court. Voilà. Et... Ça fait des mois, peut-être des années que j'y pense, que ça me... Être tout le temps au cœur de toutes les questions, De quoi demain sera fait? Quel sera le monde de demain? On verra ça demain, demain, toujours demain. Je suis la bouée de secours, moi. Je suis votre futur incertain. Hyper incertain. Remettons ça à demain. Et demain, on en fait quoi de ça? De votre ça que vous me refilez? Que vous me coulez dans les bras et démerde-toi avec ça, ma cocotte. Quelqu'un se demande? Moi, j'en ai marre. Je veux plus être votre plus tard, votre flou, votre utopie improbable ou votre bonne excuse emballée en papier d'apocalypse. Je veux plus être votre monde qui s'écroule ou qui se relève ou qui se réinvente. J'aime même pas ça, la science-fiction. Puis vous me gavez avec vos voitures qui volent, voilà.
Tu m'étonnes, t'as même pas le permis.
Ouais, bah, tu sais quoi? Exactement. Et pour une fois, t'as raison. J'ai pas le permis et je prévois pas de le passer parce que je veux plus prévoir. Parce que je veux plus être demain.
Putain, le sketch.
Oui, alors pardon pour le sketch, hein, excuse-moi. Tout le monde n'a pas ta chance, moi j'aurais bien voulu être à ta place, j'aurais bien voulu aussi être aujourd'hui. Toi, tu te rends pas compte, Oji. Toi, t'es là, bonjour, vous êtes qui? Ah bah moi, je suis aujourd'hui. Tadam. Oh là là, trop bien. Eh, hey, carpe diem. Profitons du moment présent, c'est ma tournée. Tu es le moment présent, mec. Tu t'en branles du futur, du peut-être. C'est trop facile, t'es sans conséquence. T'es whoop whoop. Cueillons dès aujourd'hui les choses de la vie. Allez, recommande en demi, remets-moi un verre Simone. Profitons aujourd'hui. Profitons, on s'en fout puisque c'est demain qu'on aura la gueule de bois.
Des roses de la vie. Les roses, pas les choses.
Ah, ta gueule.
Je rallume la radio.
Non, papa, j'ai pas fini.
Donc t'es jalouse en fait. Parce que ça, c'est une crise de jalousie.
Oui, voilà, c'est une crise de jalousie, t'as raison. Mais tu t'en fous, toi, hein. Tu sais pas ce que c'est d'être moi, tu peux cloper puisque, hé, hey, demain, t'arrêtes. Et qui c'est qui se récupère tes poumons encrassés? C'est Bibi. Vas-y, mec, allume ta clope, je suis ton cendrier. Je suis demain, je suis votre cendrier à tous. Je suis votre plus tard tellement pratique pour rien foutre aujourd'hui. Le monde de demain est plus le tabac froid et j'en peux plus d'être votre tabac froid. Moi aussi, je veux être aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, c'est déjà ton frère. Vous ne pouvez pas être tous les deux aujourd'hui.
Ah bah, je m'en fous, fallait y penser avant.
Mais demain, c'est l'espoir.
Oui.
C'est la terre promise. C'est beau, l'espoir. C'est pour ça qu'on l'avait
mais
choisi.
Mais papa, la terre promise, c'est une carotte et j'en ai marre d'être une carotte. Papa, le futur, c'est la surveillance de masse, l'exploitation de la misère, la vente d'embryons aux plus riches parce que on aura tellement défoncé la planète en pensant à aujourd'hui qu'on pourra plus faire de mômes sans labo. C'est ça, demain. Je vais pas te faire un dessin du monde de demain, papa. J'aurai pas assez de crayons noirs tellement il est salopé.
Oh, le verre à moitié vide, là. T'es pessimiste, Dadam?
Bah, sûrement, ouais, sûrement. Bah, je veux bien être optimiste, hein. Vas-y, dis-moi. Il est comment le monde merveilleux d'aujourd'hui sans penser à demain? On échange quand tu veux, hein. Ah, ça doit être cool de toujours voir le verre à moitié plein, mais quand vous aurez soif, ce sera moins marrant et ce sera pour ma pomme.
Mais si tu ne veux plus être demain, tu veux être qui?
Bah, je sais pas. Je veux être, peut-être, tiens. Ou, je sais pas. Ou on verra. Ça doit être assez cool d'être on verra. Le monde de on verra, ça doit être fabuleux. Pépouze, personne te demande de l'imaginer, le monde de on verra. T'es à la cool, tu bois des coups avec aujourd'hui et avec on s'en fout.
Ah, donc c'est cool de boire des coups avec moi. Pourquoi tu viens jamais?
Bah, peut-être parce que je suis demain et que dans mon monde, il y a des conséquences.
Bah, il faut bien qu'il y ait un demain.
Il y a toujours un demain. S'il n'y a pas de demain, c'est...
Bah, c'est fini. Enfin non, il nous reste aujourd'hui. Il a la gueule qu'il a, une haleine de calandos et l'humour d'un gosse de 12 ans, mais il nous reste aujourd'hui.
Ça fait court.
Sympa.
Je remets la radio.
Comme tu veux.
Grosse ambiance.
Désolée. Maman, tu veux que je fasse la vaisselle?
Non, non, laisse, je veux faire ça de... Oh, pardon.
Tu veux?
De quoi?
Mais demain, c'est pas l'espoir. Demain, c'est la vaisselle sale.
Oui.
Ah, c'était ça, en fait, cette crise. C'était pour pas faire la vaisselle.
Et parfois, je me demande, ta connerie, c'est un super pouvoir de naissance ou c'est un acquis sur lequel tu travailles en continu? Parce qu'il n'y a pas à dire, tu progresses, hein, ça sent les félicitations du conseil de classe, mon gars.
Ah, c'est moi qui fais des vannes de merde.
Il y aura peut-être une mention à ce stade, hein.
Ah ouais, bah ouais, bah écoute ça, plus c'est trop dur d'incarner le futur. Pauvre petite fille riche. Là, tu m'as fait ma journée, hein.
Quoi, pauvre petite fille riche? D'où pauvre petite fille riche? C'est quoi le rapport?
Bah, tu t'es jamais dit que t'étais peut-être pas à la pire place? Tu t'es déjà demandé si tu fantasmais pas un peu ce que c'était d'être aujourd'hui? Tu crois que c'est le pays des fontaines, des champagnes et de la baisse sans capote? Tu crois vraiment que c'est ça?
Oh, les enfants.
Oui, pardon, maman, du préservatif.
T'es con.
Non, 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 mais sérieux, Dedum. Eh oui, désolé, mais je continuerai de t'appeler Dedum. Et même si tu décides de t'appeler peut-être, ou on verra bien, ou manger, bouger.
Ah
ou...
non, alors justement, surtout pas manger, bouger. Pas de responsabilité.
Ah, pardon.
Manger, bouger, non, mais pourquoi pas fumer-tu?
Oh non, ça ferait tristoun, ça.
T'inquiète, maman.
Non, non, mais t'inquiète, elle veut juste un nom marrant, genre chaise de jardin, planche à fromage ou. Et tire les pimpons sur Chihuahua.
Bah écoute, ou... je vois que t'as bien saisi la profondeur du problème. En tout cas, ça fait plaisir.
Non, mais j'ai saisi, Dedum. J'ai encore le droit de me marrer, non? C'est ce que tu veux, en plus, non? Te marrer? Parce que tu crois que dans mon monde, on fait que ça, se marrer? Mais en fait, c'est ce que tu crois parce que c'est ce que tu vois, comme disait l'autre, là.
L'autre ?
Oui, le gars, là, qui...
Nelson Montfort ?
Mais arrête d'être con, le gars, là, qui croit que ce qu'il voit, là.
Saint Thomas.
Voilà, merci, papa.
Qu'est-ce que Saint Thomas vient foutre, là ?
Je vais faire les cafés.
Ah oui, j'en veux bien, moi aussi.
Attends, wow, je peux peut-être finir ma phrase ou pas du tout ? Attends, maman ! Bon, je disais quoi, là ?
Bah vas-y, tu parlais de Nelson Montfort.
Non.
Saint Thomas.
Voilà, merci, papa. Tu crois que c'est pisse, que c'est facile, que c'est drôle et tu veux y aller ? Alors, vas-y, mais je te préviens, ma poule. C'est pas toujours aussi marrant que tu le crois d'être aujourd'hui. Tu crois que c'est cool ? Est-ce que tu crois que c'est marrant d'esquiver toutes les crottes de chiens du trottoir qui sont toujours plus grosses, qui sont toujours plus puantes, sans jamais te demander pourquoi elles sont là ? Et quel infâme truc a dû avaler ce clébard ? Tu crois que c'est cool de vivre avec des œillères, de jamais te demander où tu fous les pieds ? Tu crois que c'est facile de jamais penser à demain ?
Bah, ça a l'air. Vu qu'au final, c'est à moi de sortir le Karcher pour nettoyer le trottoir. C'est à moi d'aller chez le veto pour le clébard. C'est à moi qu'on demande de payer l'addition, à moi de pas faire de monde parce que tout est en voie d'extinction.
Ah, ça part en poésie, ça y est ? Pour toi, c'est plus dur parce que ça rime ?
Bah ouais, mais désolé, c'est plus fort que moi. En fait, tu sais ce que c'est une rime ? C'est un mot qui rattrape les conneries de la phrase d'avant.
Oh, mais sérieux, là, tu m'as perdu. Trop de métaphores.
Bah, t'as peut-être pas l'habitude de réfléchir dans ton monde formidable où on surbouffe, où on surexploite, on surconsomme et on se lave le cul à l'eau potable.
Mais t'écoutes que dalle, je viens de t'expliquer que c'est pas marrant.
Et je m'en tartine, passe le cendrier.
Non.
Bon, aujourd'hui, tu te tais, ça suffit. Demain aussi, et tous les deux, je vais vous dire un truc. Peut-être que le monde de demain est triste et sordide. Et peut-être que le monde d'aujourd'hui l'est aussi. Et peut-être que c'est de sa faute.
C'est de sa faute.
Mais vous savez ce qui est vraiment pourri ? Le monde d'hier. Hier est vieux. Hier est fatigué. Hier a enterré avant-hier et ce sera bientôt son tour d'y passer. Vous êtes aujourd'hui et demain. Et bientôt, vous ne serez plus rien. Vous savez comment il est le monde d'après-demain ? Non, moi non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sans vous. Et que ça passe vite, alors trouvez un truc. Un compromis. Je sais, le compromis, ça fait pas bander.
Gérard !
Mais démerdez-vous. Entendez-vous, écoutez-vous ou faites semblant, je m'en fous. Prenez-vous la main, prenez-vous la tête, mais grouillez-vous et lâchez-nous les basques. Je suis hier et hier vous dit merde. Je vais faire la vaisselle.
Bon, je remets la radio.
Demain j'arrête, de Claire Fégreux. Réalisation, Laurence Courtois. Retrouvez le générique complet sur franceculture.fr.
Au revoir à toi qui rêve encore, au revoir à toi qui n'est pas mort, au revoir ma mère, au revoir mon père, au revoir ma zone pavillonnaire, au revoir à toi l'ours polaire, au revoir à tous les bipolaires, au revoir à ceux qui meurent de froid, au revoir aussi au Pôle emploi, au revoir à toi la pop urbaine, au revoir à toi Marine Le Pen, au revoir à vous, au revoir la vie, au revoir à nous, tout est fini, au revoir à toi planète Terre, au revoir les plantes, au revoir les guerres, au revoir l'amour, au revoir la haine, au revoir à toute la race humaine.
Vous retrouverez un prochain épisode de Fiction Imagine demain, c'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours. Aujourd'hui, Ernst Jünger, l'homme qui résista de l'intérieur au régime nazi.
Comme nous sommes un peu en altitude, au-dessus des boucles de la Seine, et qu'on voit devant nous la Seine scintiller, immobile, on dirait presque qu'elle ne court pas dans le soir, je voudrais vous parler précisément d'un autre soir, le soir où cet étonnant château où nous sommes, et qui s'appelle la Roche-Guyon, s'est transformé en une sorte de burg rhénan. Un fleuve recouvrant l'autre dans un songe assez absurde, mais à la fin passablement honorable. C'était en 1944, quand l'état-major de Rommel occupait l'ancien donjon de la Rochefoucauld. Et c'est ici que, le 24 juin, ou le 23 juin, Ernst Jünger a lu à quelques officiers réfractaires comme lui au nazisme et qui devaient être pour la plupart compromis dans l'attentat de Stauffenberg, un petit livre intitulé « La paix ». Jünger, lui, avait choisi la désertion intérieure et le régime nazi le ménagea jusqu'à la fin en voyant tout de même son fils aîné se faire tuer dans les carrières de Carrare après qu'il ait tenu des propos anti-nazis. Dans un texte saisissant, Julien Gracq, qui fut un grand admirateur des Falaises de marbre, l'un des grands livres de Jünger, a expliqué cet auteur par l'acceptation, par une acceptation d'une nature particulière et entièrement dépourvue de veulerie. Anna Arendt lui a également rendu justice en évoquant, à propos de lui, l'un des exemples, disait-elle, les plus nets, de la recherche de l'intégrité personnelle dans un temps et dans un pays où tous les repères, individuels et collectifs, avaient été effacés. Mais au fond, pour moi, c'est Rinaldi qui s'est approché le plus de la vérité de ce caractère, si tant est que ce soit possible pour celui de Jünger, comme pour tous les caractères. Commentant les journaux parisiens, Rinaldi y a montré un homme qui n'a pour finir d'autre recours que la littérature pour tenir à distance à la fois ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Le résultat, écrit Rinaldi, est prodigieux d'étrangeté. Jünger a aimé l'éclat des armes et l'a vu disparaître dans la guerre industrielle et le massacre de masse. Il est passé des orages d'acier à la chasse aux cicindelles, dans un équilibre instable où la dépression ne l'a pas épargné. Quelque chose en lui résistait à la fois aux réquisitions de son temps, de son pays, et peut-être même des réquisitions de sa propre conscience. Pendant la guerre, il lisait, on le voit dans le journal parisien, la Bible sans y croire, et plus tard ayant abjuré les folies politiques de son jeune âge, il n'attendait le salut que d'un christianisme impossible, à l'heure de la technique et du matérialisme. Chez Jünger, au fond, seul le spectacle de la nature offre, malgré sa cruauté, une consolation sans mélange. Dans un très beau livre, Bernard Maris, qui a été assassiné, on s'en souvient, à Charlie Hebdo par des tueurs islamistes, a opposé avec une grande délicatesse la figure de Jünger à celle de ce Maurice Genevoix dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Le temps les a rapprochés. Les journaux de la Seconde Guerre sont ceux de la perte d'à peu près toutes les illusions. À les lire, on ressent pourtant, et bien qu'ils diffusent la lueur consolatrice d'une sensibilité morale toujours en éveil, une sorte de gêne. Ainsi, par exemple, lorsqu'il raconte que passant près de la Madeleine, il voit pour la première fois l'étoile jaune et la salue, il écrit « J'ai toujours salué l'étoile ». C'est comme un souvenir, en effet, du vieux monde de l'honneur, à jamais disparu. Mais ce n'est que cela. Et la disproportion des choses l'a sûrement frappé. Il ne s'est guère justifié là-dessus. Il s'en est tiré, si je puis dire, comme Rinaldi l'avait vu, en écrivant, l'œil fixé sur une boussole personnelle qui marquait des directions imprévues. Si vous me permettez une confidence, je vous raconterai comment je lui ai directement posé la question avec l'audace de ceux qui n'ont été affrontés à aucune circonstance historique difficile. C'était il y a une trentaine d'années peut-être, Christian Bourgois m'avait présenté à lui. Nous sommes vus chez Bourgois puis dans Paris lorsqu'il y venait. Il avait alors près de 100 ans. Un jour, je lui ai demandé, parce que c'était l'anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, comment il pensait à présent à cet uniforme de la Wehrmacht qu'il avait porté et qui n'est sûrement pas, les études historiques le montrent, demeuré sans tache. Il a réfléchi. Puis il m'a répondu, le visage fermé, énigmatique, citant, je crois, Spinoza, mais sans le dire, « Le remords est une seconde faute ». Je dois dire qu'il était parfois drôle, racontant les visites que lui a faites le président Mitterrand et sur lesquelles il s'interrogeait tant ils avaient peu de choses à se dire. À la fin, disait-il, il avait compris que Mitterrand était seulement venu chercher près de lui le secret de l'immortalité. Alors, il le lui avait donné, lui expliquant que le secret était assez simple, qu'il avait pris toute sa vie un bain froid tôt le matin et cessé toute activité politique à l'âge de 25 ans, et Jünger de sourire, il n'est jamais revenu me voir. Je parlais de gêne à propos de l'étoile. On ressent la même gêne à propos de ce petit livre vaguement subversif, celui qui a été lu ici, dans le château de la Roche-Guyon, « La paix », au moment du débarquement. Rommel aurait déclaré, dit-on, et c'est Junger lui-même qui le mentionne, « c'est un texte avec lequel on peut travailler ». Junger jugeait que Rommel était le seul qui aurait pu mettre fin à la guerre, le seul qui avait un prestige suffisant auprès de la population. Et on sait que Rommel devait être forcé au suicide après l'échec du complot de Stauffenberg. Mais il n'en est pas moins frappant que ce désir de paix, chez Rommel, comme d'ailleurs chez un certain nombre de ses conjurés, comme dans l'ouvrage de Junger, que ce désir de paix ne se fonde pas sur le crime contre l'humanité, sur lequel Junger avait eu pourtant des pages sans équivoque. Il en avait vu très tôt d'ailleurs les signes avant-coureurs, démissionnant par exemple de l'association des anciens de son régiment auquel il était très attaché lorsque les Juifs en avaient été exclus en 1934. Mais il n'en reste pas moins frappant pour nous maintenant que ce désir de paix ne s'exprime qu'au moment où la défaite de l'Allemagne paraît certaine, si bien que ce que ses conjurés paraissent reprocher à Hitler, c'est autant le crime que la défaite nationale. Et cette incertitude est aussi la marque de ce nihilisme, que pourtant Junger avait su regarder très tôt en face pour le condamner. Puisque son premier journal s'appelle « Jardins et routes », je voudrais dire maintenant un mot de ce jardin qui s'étend devant nous en contrebas, au-dessus de la Seine. C'est un jardin potager qui est à la fois ornemental et utilitaire. Junger est resté toute sa vie un amateur de jardin. Du haut du château, nous sommes, on voit ce jardin géométrique comme posé au bord d'un grand canal paisible. Mais ce canal est la Seine. Le contraste est fort entre ce château militaire avec ce qu'il charrie de hasard et de violence et la paix si ordonnée d'un espace voué au regard et à la guérison. Ce vent qui souffle en haut, là où nous sommes, ne doit pas souffler en bas et l'on aimerait descendre pour y trouver enfin un refuge. Mais s'il est un refuge pour le voyageur, le jardin n'en est pas un pour le jardinier. La terre console, mais elle résiste. On se blesse les mains, on coupe, on émonde. C'est une construction au fil du temps, et parce que c'est une construction au fil du temps, on voit bien que le jardin est une métaphore de la vie. L'essentiel du travail reste invisible. Le jardinier travaille dans l'invisible, dans ce qui adviendra, dans ce que peut-être il ne verra pas et que ses successeurs verront. On peut s'égarer lorsqu'on est jardinier, avant de voir. Voici, écrit Hugues de Miramar dans son jardin, que je suis devenu à moi-même lourd, comparable à de la boue, à de la poussière, à de la cendre. Et nous vivons en jardinier dans l'espoir d'être rendus meilleurs et peut-être de bâtir une société plus juste. Le rêve personnel et le rêve politique se mélangent dans le jardin. Hommes et pays, nous sommes à nous-mêmes, non seulement le jardinier, mais notre propre jardin. Et peut-être au fond est-ce là l'essentiel. Non dans la perfection toujours dérobée, non dans la guérison attendue des plantes et des fleurs, mais dans cette activité sans relâche, où nous devenons ce que nous sommes.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée au festival de Lussas et au film La Cible Yézidi. L'émission d'aujourd'hui était préparée par Shushan Jergaillan, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Lise Combe, à la technique Ludovic Auger. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.